Voilà, donc je vous introduis les trois premières parties de Amoris Laetitia. Donc le premier chapitre, c'est « À la lumière de la parole de Dieu ». Deuxième chapitre, « La réalité et les défis de la famille ». Troisième chapitre, « Le regard posé sur Jésus, la vocation de la famille ». En fait, là, c'est plus l'enseignement du magistère sur la famille. Et après, donc, commenceront les chapitres 4 et 5 qui, selon les termes du pape, sont les chapitres centraux de ce document. Voilà. Alors, je pense que ce n'est pas forcément inutile de l'introduire, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais tant mieux, en un sens, si, c'est que la réflexion de l'Église, elle part de la parole de Dieu. Ça paraît tout simple de dire comme ça, mais à une certaine époque, peut-être pour le catéchisme par exemple, une tentation c'était de partir de ce que connaissaient les enfants. Mais c'est une. Alors bien sûr qu'il faut en tenir compte, hein, bien sûr au niveau pédagogique, mais en partant de ce que disent les gens, on n'arrive jamais à la révélation de Dieu. Il faut toujours partir de ce que Dieu nous a dit. Après, on essaie de comprendre ce que Dieu nous a dit. Alors, on n'y arrive pas toujours bien. Mais le point de départ de la théologie, c'est toujours la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole des gens. Quand Jésus pose la question à ses apôtres, pour vous qui suis-je, bon, alors il y en a qui disent que tu es un tel. Voilà. Mais pour vous qui suis-je, là, c'est. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, Pierre. C'est mon Père qui est au ciel. Donc, c'est très important. On part toujours de la parole de Dieu. Et alors, après, on essaie de comprendre, bien sûr. Vous savez, grosso modo, la différence entre la philosophie et la théologie. Enfin, c'est très schématique, hein, ce que je dis. Mais la théologie, on part de la parole de Dieu, on essaie de comprendre ce que Dieu a bien voulu nous dire, donc on ouvre la parole de Dieu, la Bible, et puis on essaie de comprendre. La philosophie, on ouvre les yeux sur ce qui est créé, et on essaie de comprendre, mais d'un côté, c'est Dieu qui est venu vers nous pour se révéler à nous, et nous, on essaie de comprendre ce qu'il nous a dit. De l'autre côté, c'est l'homme, par ses seules forces, qui essaie de découvrir. Hein, donc c'est deux chemins inverses, en quelque sorte, qui doivent se rencontrer, si c'est une bonne philosophie. Mais donc, c'est pas opposé du tout, mais c'est quand même une démarche complètement différente. Il y en a une, c'est on parle de l'autorité de Dieu, et l'autre, il n'y a pas d'argument d'autorité en philosophie. On essaie de faire marcher son intelligence, si possible, correctement. Le pape, son premier chapitre, donc c'est dédié à la parole de Dieu. Après le deuxième chapitre, hein, ça forme un peu une unité. Comme je disais, il voulait être à l'écoute de Dieu et puis à l'écoute des hommes. Donc le deuxième chapitre, c'est plutôt à l'écoute de la réalité, de ce que vivent les gens. Et puis le troisième chapitre, c'est plus le magistère de l'Église. Alors, dans l'enseignement de l'Église, il y a un trio, comme les trois pieds d'un tabouret, qui sont la Bible, la tradition et le magistère. Alors, qu'est-ce que c'est que la tradition ? La tradition, c'est pas à confondre avec des traditions humaines, que Jésus critique d'ailleurs, enfin, pour une part en tout cas. C'est quelque chose qui nous est transmis depuis les apôtres. C'est leur compréhension des paroles de Jésus déjà. Cette tradition est importante. Qu'elle soit écrite ou orale, je pense à une petite chose. Dans la Bible, à un moment, on dit « n'appelez personne père ». Alors du coup, il ne faut pas appeler père Eric, par exemple. Concrètement, si on l'interprète littéralement. Seulement, dans la tradition, justement, dès Saint Paul, Saint Paul est parle de lui comme d'un père par rapport à ceux qu'il a engendrés dans le Christ. Donc, on voit que la tradition, déjà, a pris ces paroles de Jésus, mais ne les a pas interprétées trop littéralement. Alors, dans l'esprit, bien sûr, on n'a qu'un seul père dans le ciel, et puis ça, c'est évident qu'ultimement, on ne doit pas conduire les gens à nous, ça c'est évident, on doit les conduire à Dieu. Alors, ça, c'est ce que Jésus voulait dire. Mais après, du coup, on a, dans la manière d'entendre les paroles de la Bible, il y a la Bible et il y a la tradition par laquelle nous est parvenue la Bible. Et ça, c'est important parce que, alors, notamment avec la réforme de Luther, ou alors on a parlé de sola scriptura, seulement l'écriture, mais alors vous voyez le résultat, c'est que après il y a autant d'interprétations que de... Donc les églises protestantes se sont beaucoup, beaucoup... Parce que seulement l'écriture, ça veut rien dire. Parce qu'après il y a tellement d'interprétations qui peuvent... Tandis que nous, l'écriture nous parvient par une tradition. Et du coup, c'est important de... C'est les deux premières choses. Et après, l'interprète autorisé de la tradition. Alors, bon, il y a le sensus fidei, j'ai juste évoqué ce matin, le sens des fidèles. Il y a bien des gens, ils n'ont pas fait du tout de théologie, mais ils sentent déjà que ça a une cohérence. Et que, voilà. Et puis, c'est le magistère, après. Donc, c'est les trois pieds du tabouret. Il y a l'écriture, la tradition et le magistère qui aujourd'hui nous aident à comprendre la parole de Dieu aujourd'hui, qui nous aident à l'interpréter aujourd'hui. C'est peut-être dans ce cadre-là on peut entendre cette parole de Saint Jean, hein, l'Esprit Saint vous conduira à la vérité tout entière. Alors c'est pas non que l'Esprit Saint vient nous révéler de nouvelles choses, mais il nous donne d'entrer plus profondément dans la parole de Dieu, de la comprendre plus profondément. Par exemple, l'Assomption de Marie, vous ne la trouvez pas telle qu'elle dans la parole de Dieu, mais dans la parole de Dieu portée par une tradition très ancienne, oui. Voilà. Et le magistère, à un certain moment, a autorité pour nous dire oui, ça c'est bien dans la foi qui nous a été donnée par Jésus, ou ça ne l'est pas. Mais ultimement, on revient toujours à la parole de Dieu, mais ce n'est pas sola scriptura comme chez les protestants, c'est une parole qui est transmise par la tradition. Bon, je ne vais pas développer davantage sur ça, mais voilà. Alors donc, dans ce premier chapitre, le pape va nous faire un petit tour de l'écriture. Alors, comme je le disais au point de départ, ne demandez pas à ce document ce qu'il ne vous donnera pas. Ce n'est pas un document dogmatique. Et on le voit, entre autres, par le petit tour de l'écriture que nous fait faire le pape. Ce n'est pas pour en tirer de nouveaux dogmes, pour ainsi dire, sur la famille, mais c'est plutôt pour nourrir notre vie de foi, mais sans que ça nous donne un enseignement tout à fait magistral sur la famille. Alors ça, ce premier chapitre, ça commence au numéro 8. C'est un commentaire assez libre du psaume 128. Je vous le lis. Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur et marchent dans ses voies. Du labeur de tes mains, tu te nourriras. Heureux es-tu, à toi le bonheur pour toi. Ton épouse, une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils, des plants d'olivier à l'entour de la table. Voilà de quel bien sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse de Sion. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur tous les jours de ta vie et voir les fils de tes fils, paix sur Israël. Donc, le pape va commenter assez librement ce psaume. Voilà, alors il y a quatre têtes de chapitre, on pourrait dire, 4. D'abord, il va parler plus de l'amour conjugal. Ça sera les numéros 9 à 12. 9 à. Même un peu plus, oui. Là, je m'en mêle, mais là-dedans, ce sera plus facile. Oui, 9 à 13. Alors, bon, je pense que c'est quelque chose d'évident aussi pour vous que au centre de la famille, il y a le couple. C'est ce que dit le pape. Et alors, ça a des conséquences très pratiques d'ailleurs, hein. Ça veut dire que c'est très très important de soigner le couple si on veut soigner toute la famille. Si le couple va pas bien, ben, il y aura des incidences sur toute la famille. Donc, c'est pour ça que ça vaut ça vaut la peine de prendre soin du couple. Alors, quelquefois, justement, quand on commence à avoir des enfants et tout ça, on ne sait plus trop où donner de la tête parce que c'est vrai que ça. Mais il ne faut jamais perdre de vue de prendre soin du couple et pas seulement des enfants. Parce que quand on prend soin du couple, ben, voilà, on prend soin aussi indirectement des enfants. Et dès le départ, le pape rappelle que c'est Dieu qui a voulu l'homme et la femme. Il aurait pu faire les choses autrement, mais. Alors, dans ce document, il est très clair hein, vis-à-vis de l'homosexualité. Il dit non, on ne peut pas mettre sur le même plan une union homosexuelle ou une union d'un homme et d'une femme, ce n'est pas la même chose. Alors, bon, après, il est tout miséricordieux, mais il dit mais non, il ne faut pas quand même confondre les choses. Hein, parce que, de fait, Dieu, au point de départ, n'avez-vous pas lu que le Créateur dès l'origine les fit homme et femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Alors, dans les numéros qui suivent, le pape parle de l'homme et la femme à l'image de Dieu. Alors, je ne sais pas ce que veut dire pour vous être à l'image de Dieu. Parce que ça a plusieurs. On peut l'interpréter de diverses manières. Il y a une manière où on interprète l'homme et la femme à l'image de Dieu dans leur individualité. Hein, chaque personne humaine est à l'image de Dieu. Et on y est à l'image de Dieu par notre intelligence et notre volonté, par nos facultés spirituelles. Donc c'est ce qui nous différencie des animaux. Mais une autre ligne d'interprétation qui est valable aussi, elle ne s'exclut pas, c'est l'homme et la femme sont à l'image de Dieu dans leur communion mutuelle. Alors c'est un peu plus dans cette direction que s'oriente le pape, mais pas encore tout à fait. Parce que, alors Jean-Paul II clairement insistait beaucoup sur cette dimension de l'homme et de la femme à l'image de Dieu dans leur communion mutuelle, hein, qui sont. Comme une petite trinité sur la terre, en quelque sorte. Mais le pape François insiste davantage sur la dimension procréative. Alors, vous savez, les deux finalités du mariage, alors, c'est l'heure de la sieste, hein, c'est terrible. Hein, les deux finalités du mariage, c'est. À la fois l'union des époux et la procréation, et le fait d'avoir des enfants. C'est les deux finalités du mariage. Alors, dans l'histoire, c'est vrai que l'Église insistait peut-être davantage sur la dimension d'avoir des enfants, mais c'est plus vrai depuis le Concile, au moins en tout cas, où il n'y a pas une priorité qui est mise. Ben, on se marie d'abord pour avoir des enfants et ensuite aussi pour s'aimer mutuellement. Hein, il n'y a pas une priorité qui est mise entre les deux, mais il y a à la fois ces deux finalités du mariage, à la fois l'union des conjoints et la procréation des enfants. Mais alors, en tout cas, le pape François, quand il parle de l'image de Dieu, parle insiste plus particulièrement sur la procréation. Et voilà ce qu'il dit dans le numéro 11. Le couple qui aime, il le dit aussi, et procrée est la vraie sculpture vivante capable de manifester le Dieu créateur et sauveur. Donc, le couple qui est vraiment à l'image de Dieu, qui est comme une représentation de Dieu sur la terre, qui manifeste Dieu ici, et qui est le symbole des réalités intimes de Dieu, comme il le dit dans le numéro 11. Ou un peu plus loin, la relation féconde du couple devient une image pour découvrir et décrire le mystère de Dieu, fondamental dans la vision chrétienne de la Trinité qui, en Dieu, contemple le Père, le Fils et l'Esprit d'amour. Le Dieu Trinité est communion d'amour et la famille est son reflet vivant. Là, il reprend des paroles de Jean-Paul II. Notre Dieu, dans son mystère le plus intime, n'est pas une solitude, mais une famille, puisqu'il porte en lui-même la paternité, la filiation et l'essence de la famille qu'est l'amour. Donc le pape revient quand même sur cette... insiste quand même assez fortement sur le fait que le couple est à l'image de Dieu. Et après, il en parle à propos quand il parle plus précisément du sacrement du mariage. Alors, le pape, à proprement parler, ne fait pas vraiment une théologie du sacrement du mariage dans cette lettre. Il en parle dans certaines catéchèses. Si vous voulez, le pape François a fait pas mal de catéchèses sur la famille, plus ou moins au moment entre les deux synodes sur la famille. Et alors, à deux reprises, notamment, il parle du sacrement du mariage. Il en parle, notamment le 2 avril 2014, si vous voulez aller. Voilà ce qu'il dit à ce moment-là. Le sacrement du mariage nous conduit au cœur du dessein de Dieu, qui est un dessein d'alliance avec son peuple, avec nous tous, un dessein de communion. Au début du livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, pour couronner le récit de la création, il est dit « Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il les créa homme et femme. » L'image de Dieu est le couple conjugal, l'homme et la femme. Pas seulement l'homme, pas seulement la femme, mais tous les deux. C'est cela l'image de Dieu. L'amour, l'alliance de Dieu avec nous est représentée dans cette alliance entre l'homme et la femme, et cela est très beau. Lorsqu'un homme et une femme célèbrent le sacrement du mariage, Dieu, pour ainsi dire, se reflète en eux. Il imprime en eux ses traits et le caractère indélébile de son amour. Le mariage est l'icône de la communion, et l'icône de l'amour de Dieu pour nous. Et un peu plus loin, alors là c'est plus en référence, il le dit plus en référence au texte de la Genèse, hein, il y a quelques grands textes pour parler du mariage, donc, mais vous connaissez, il y a le chapitre 1er de la Genèse, d'où il prend cette citation, « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance », etc. Et puis après il y a le chapitre 2, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Et alors c'est là que... Donc c'est deux récits de la création, un peu différents, mais complémentaires. Et après, il y a un autre texte assez connu, c'est pour parler du mariage, c'est Saint Matthieu au chapitre 19. Hein, c'est un contexte où il est question du divorce. Et alors... à ce moment-là, Jésus redit, mais non, à l'origine, Dieu n'a pas fait les choses comme ça. Voilà. Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit homme et femme, et qu'il a dit, ainsi donc, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, et bien... Ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. Donc c'est l'indissolubilité du mariage. Et un texte, alors c'est là qu'on y vient, un autre texte très connu aussi, pas toujours choisi pour le mariage, parce que quand on dit à la femme qu'elle doit se soumettre au mari, ça ne plaît pas forcément, mais après il faudrait bien le comprendre. Hein, mais, donc c'est dans l'Épître aux Éphésiens. Et ce texte de l'Épître au chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens est très important parce que c'est peut-être là vraiment l'origine du sacrement du mariage. C'est quand le sacrement du mariage se rattache beaucoup à ce texte. Bon, il y a aussi les noces de Cana dans Saint Jean, au chapitre 2 de Saint Jean, mais le sacrement du mariage, on le rattache beaucoup à ce texte. Alors, voilà ce que dit le pape François à propos de la lettre aux Éphésiens. Saint Paul, dans la lettre aux Éphésiens, met en évidence que chez les époux chrétiens se reflète un grand mystère, le rapport instauré par le Christ avec l'Église, un rapport nuptial. L'Église est l'épouse du Christ. Voilà quel est leur rapport. Cela signifie que le mariage répond à une vocation spécifique et doit être considéré comme une consécration. C'est une consécration. L'homme et la femme sont consacrés dans leur amour. Les époux, en effet, en vertu du sacrement, sont investis d'une véritable mission pour qu'ils puissent rendre visible à partir des choses simples, ordinaires, l'amour avec lequel le Christ aime son Église, en continuant à donner sa vie pour elle dans la fidélité, dans le service. Et vous savez ce que c'est qu'un sacrement ? Une définition classique du sacrement, ça... Ah, très bien. Signe visible d'une grâce invisible, instituée par Jésus-Christ pour notre sanctification. Mais signe visible d'une grâce invisible. Et là, donc, c'est l'homme et la femme qui sont le signe visible du don que Jésus fait de lui-même à son Église. Donc c'est cette dimension du sacrement. Alors, il doit Alors, tout en ayant à l'esprit, comme il le dit, alors c'est une autre audience où il parle du sacrement du mariage. C'est le 6 mai 2015. Il introduit ici l'analogie entre le couple mari-femme et celui de Christ-Église. Mais il est clair qu'il s'agit d'une analogie imparfaite. Hein, parce que, bon, on n'est jamais à la hauteur de l'amour de Jésus pour son Église. Mais déjà dans l'autre texte, le pape François disait que voilà, c'était vraiment la mission du couple que de rendre visible cet amour de Jésus pour son Église et cette mission. Et là, voilà ce qu'il dit encore. La décision de se marier dans le Seigneur contient aussi une dimension missionnaire qui signifie avoir dans son cœur la disponibilité à devenir l'intermédiaire de la bénédiction de Dieu et de la grâce du Seigneur pour tous. En effet, les époux chrétiens participent en tant qu'époux à la mission de l'Église. Et il faut du courage pour cela. Citation. Alors, il y a des pères de l'Église qui parlaient aussi dans ce sens-là. Il y a Saint Jean Chrysostome, par exemple, qui disait « Quand le mari et la femme s'unissent dans le mariage, ils n'apparaissent plus comme quelque chose de terrestre, mais comme l'image de Dieu lui-même. » Et il dit aussi que dans le mariage, on a une icône vivante de Dieu, une théophanie. Le mariage anticipe le royaume et constitue déjà une micra basileia, un petit royaume, son image prophétique. Alors, toujours peut-être je peux développer encore un tout petit peu sur ce passage aux Éphésiens qui est, qui est vraiment au cœur de la théologie du mariage, de la réflexion chrétienne donc sur le mariage. Donc voilà ce qui est redit encore. Saint Paul identifie le lien de l'homme et de la femme à celui qui unit le Christ et l'Église. Dire que l'amour de l'homme et de la femme est semblable à l'amour du Christ pour l'Église, c'est dire que l'amour conjugal, l'amour qui unit deux êtres, mari et femme, est le même amour que celui que Dieu a pour les hommes, pour cette humanité, c'est-à-dire pour chacun d'entre nous. L'amour humain est vivifié de l'intérieur, repris, transfiguré de l'intérieur par l'amour même que Dieu a pour nous. Le mariage est porteur de la grâce même de Dieu. Dieu qui aime cet homme va l'aimer avec le cœur de son épouse. Dieu qui aime cette femme va l'aimer avec le cœur de son mari. Quand le mari aime sa femme, c'est à travers son cœur, c'est Dieu lui-même qui aime son épouse. Quand la femme aime son mari à travers le cœur de cette femme, c'est Dieu lui-même qui aime cet homme. La grandeur du mariage, c'est que l'amour de l'homme et de la femme est la révélation et la participation et la réalisation concrète de l'amour même de Dieu. Alors, il y a cette phrase assez forte aussi. Le Christ a quitté, entre guillemets, son Père en se faisant homme pour s'attacher à son épouse, l'Église. Le mystère de l'incarnation est le même que le mystère du mariage. Le mystère de l'amour conjugal est la manifestation de cet amour de Dieu qui s'est fait chair pour nous épouser, pour nous aimer d'un amour aussi passionné, aussi profond, aussi total qu'un amour conjugal. J'espère que je ne vous ai pas assommé par toutes ces citations, mais qui me semblent très belles, parce que cette image, alors le pape désire reprendre justement des passages de la parole de Dieu, parce que dans la parole de Dieu, c'est fréquent de parler de l'union de chaque âme avec Dieu. L'image qui est prise, c'est l'image de l'amour conjugal. Donc on le voit notamment chez le prophète Osée où l'idolâtrie, souvent, c'est considéré comme une infidélité, comme une infidélité conjugale, en quelque sorte. Donc c'est une image qui est très présente, mais c'est plus qu'une image pour parler. Quand le mariage devient un sacrement, il est porteur de cette grâce aussi de l'amour de Dieu, comme ces textes le disent assez bien. C'est pas uniquement un symbole, il y a plus qu'un symbole. Derrière ce symbole, il y a une grâce qui est donnée. Voilà, alors ça c'était plus pour les numéros 8 à 13, si je ne me trompe pas. 9 à 13, sur l'amour conjugal. Et après, la parole de Dieu, les numéros 14 à 18, c'est plus par rapport aux enfants. Et il parle là au numéro 15. Le pape parle de la famille comme d'une église domestique. Alors, je ne sais pas ce qu'évoque pour vous ce thème d'église domestique. Alors, j'ai voulu regarder d'un peu plus près. Est-ce que ça vous dit quelque chose, l'église domestique? Ah oui, vous ne pouvez pas parler. Bon, alors, je ne vous pose pas de questions. Alors c'est une expression qui est assez ancienne. Je vous ai parlé de Saint Jean Chrysostome, donc ils en parlaient déjà. Mais cette expression d'église domestique a été mise à l'honneur notamment au moment du Concile Vatican II ou Paul VI aussi quand il a écrit aux équipes Notre-Dame par exemple. Alors, derrière cette expression, c'est aussi de dire que la famille est la plus petite cellule de l'Église, il ne s'agit pas tant pour la famille d'être à l'image de l'Église et de faire tout ce qui se fait dans la grande Église, dans la famille, mais que voilà, le lieu où se vit la vie chrétienne dans la famille, c'est déjà pleinement l'Église. Je vous lis Lumen Gentium, un des documents du Concile. Il faut que par la parole et par l'exemple, dans cette sorte d'église qu'est le foyer, donc l'église domestique, si on peut dire, les parents soient pour leurs enfants les premiers héros de la foi au service de la vocation propre de chacun et tout spécialement de la vocation sacrée. Ou dans le compendium du catéchisme de l'Église catholique, la famille chrétienne est appelée Église domestique parce qu'elle manifeste et révèle la nature de l'Église comme famille de Dieu, qui est d'être communion et famille. Chacun de ses membres, selon son rôle propre, exerce le sacerdoce baptismal, contribuant à faire de la famille une communauté de grâce et de prière, une école de vertu humaine et chrétienne, le lieu de la première annonce de la foi aux enfants. Donc dans ce sens-là, on peut déjà parler de la famille chrétienne, de la famille comme d'une église domestique. Et du coup, ça éclaire aussi sur ce qu'on peut vivre dans l'église, au niveau paroissial. Quelque part, il devrait y avoir une caractéristique un peu familiale où on se porte les uns les autres, où on a ce souci les uns des autres de se faire grandir mutuellement, etc. Alors, toujours dans cette partie consacrée plutôt aux enfants, voilà ce que dit le pape. La Bible, au numéro 16, la Bible considère la famille aussi comme le lieu de la catéchèse des enfants. Cela est illustré dans la description de la célébration pascale, au livre de l'Exode ou du Deutéronome. Il y a un psaume aussi le psaume 78, je vous le cite. Nous l'avons entendu et connu, nos pères nous l'ont raconté. Nous ne le tairons pas à leurs enfants, nous le raconterons à la génération qui vient. Les titres du Seigneur et sa puissance, ses merveilles telles qu'il les fit, il établit un témoignage en Jacob, il mit une loi en Israël. Il avait commandé à nos pères de le faire connaître à leurs enfants, que la génération qui vient le connaisse. Les enfants qui viendront à naître, qu'ils se lèvent, qu'ils racontent à leurs enfants. Donc c'est cette transmission, ça c'est, oui c'était dans le numéro 16, cette transmission de la foi qui se fait au sein de la famille. Ainsi les diverses générations chanteront au Seigneur, jeunes hommes, aussi les vierges, les vieillards avec les enfants. Donc la famille comme lieu de transmission de la foi. Bon, la foi, c'est clair que ça ne se transmet pas comme un colis, puisque ça fait appel à la liberté de chacun. Mais c'est comme les parents facilitent les choses, après les enfants, bah, après chacun réagit, on n'est pas maître. Voilà. Mais on peut au moins, c'est comme ceux qui ont cultivé. Bon, ils essaient de bien semer tout ça. Après, il y a des années ça pousse, il y a des années ça pousse pas. Ou ça, voilà, les récoltes sont pas bonnes. Mais quelque part, c'est un peu la même chose en famille. Les parents sèment. C'est le cardinal Martini qui disait une chose assez belle. Il disait, ce qui est sûr, que si on sème pas, il y aura rien. Mais bon, on sème, après la récolte, ça nous appartient pas quelque part. Et cette transmission, elle est aussi lors de la liturgie du baptême, elle est assez, quand on baptise un petit enfant en tout cas, hein, ce cierge qu'on donne, hein, c'est la lumière de la foi, mais on la transmet aux parrains, à la marraine, aux parents. Et voilà, pour qu'ils puissent transmettre cette lumière, après, encore une fois, l'enfant, il a sa liberté, mais. Alors, une mère de famille, voilà ce qu'elle disait. La foi, c'est comme la grippe. C'est au sein de la famille que ça se transmet le mieux. Mais c'est une grippe positive, bien entendu. Mais, alors, quelques suggestions peut-être pour cette transmission de la foi. Même si je ne suis pas du tout spécialiste en la matière, mais déjà c'est de commencer tôt, pas attendre, parce que les tout petits enfants ont souvent une certaine capacité d'admiration, de s'émerveiller. Et du coup, de ne pas attendre trop tard. Les enfants tout petits, 3 à 5 ans, peuvent avoir une vraie vie de prière. Alors, ce ne sera pas forcément très rationnel, ou voilà, mais voilà, ils sont tout à fait réceptifs à la foi. Une deuxième piste, ça peut être justement de lire la parole de Dieu en famille. Alors, il y a aussi, il y a la parole de Dieu, il peut y avoir au-delà de la Bible, il peut y avoir des vies de saints ou mais des choses qui nourrissent et où ils peuvent poser leurs questions aussi, etc. Bien sûr, la prière en famille, et la prière en famille, il ne s'agit pas simplement de faire prier les enfants, mais de prier soi-même. Parce que si les enfants le sentent, alors quelquefois il peut y avoir un des deux parents qui fait la police pendant que l'autre prie vraiment et pas absorbé par le. Parce que bon, c'est pas toujours tout à fait paisible la prière en famille. Bon. Mais voilà. Mais en tout cas, d'avoir cette idée qu'on ne prie pas simplement pour faire prier les enfants, mais pour prier soi-même. La messe, le fait de pouvoir aller à la messe, alors quand ils grandissent, ça devient quelquefois un peu plus compliqué, mais bon. Après, il peut y avoir. Bon, là, il n'y a pas de règle tout à fait générale. Quelquefois, on peut essayer de trouver un lieu où les enfants sont un peu plus à l'aise pour continuer à aller à la messe. Bon, l'idéal, c'est d'aller dans sa paroisse, mais quelquefois, quand les enfants grandissent, ça devient un peu plus compliqué. Et dans une assemblée où ils retrouvent des jeunes de leur âge, c'est plus facile. Bon, alors après, je n'ai pas de choses tout à fait précises à donner, mais bon, après, c'est une question de prudence. Et prendre les moyens pour pas les contraindre et les forcer, mais trouver qu'ils y aillent si possible, qu'ils désirent y aller. Ou quelquefois, je me rappelle, une famille, leurs enfants, à partir du moment où ils étaient servants d'hôtel, c'est eux qui entraînaient tout le monde parce qu'ils ne voulaient pas être en retard pour avoir la place pour servir l'encensoir, ou je sais pas quoi. Et du coup. Bon, après, on essaie de trouver les moyens, ça c'est plus au niveau de la prudence, mais. En tout cas, il s'agit, comme le disait à propos de l'éducation, on n'impose pas forcément les choses par la force, il faut essayer de trouver des ruses pour. Voilà. Aussi d'expliquer les choses. Et ça se fait aussi au moment des dialogues à table, pas simplement dire c'est comme ça et c'est pas autrement, mais expliquer pourquoi. Et aussi. Pas simplement directement pour les choses de la foi, mais dans l'usage de l'argent. Pourquoi vous prenez telle ou telle option dans le. Voilà. Et ça, du coup, c'est quelque chose qui éclaire. Ils ont besoin aussi de lumière. Que vous leur transmettiez pourquoi vous faites tel choix plutôt que tel autre. Alors. Autre élément qui est évident, mais l'exemple, c'est vrai que plus votre exemple est rayonnant, plus il y a une cohérence entre ce que vous leur dites et ce que vous faites, plus ça a des chances de marcher parce que les adolescents, ils ne nous manquent pas. Hein. Bon, sachant qu'on peut pas demander, on n'est pas parfait, donc on sait bien qu'on n'est pas parfait, mais essayer de réduire autant que possible cette. Entre ce qu'on leur demande et ce qu'on fait. Parce que sinon, au bout d'un moment, ils disent oui, il dit et il ne fait pas. Hein. Autre élément, toujours dans cette transmission en famille, le rôle des grands-parents. Alors après, d'une famille à l'autre, ça peut être un peu différent, mais Souvent, les grands-parents ont quand même un rôle particulier. Ils peuvent avoir une connivence particulière avec leurs petits-enfants, notamment au moment de l'adolescence. Bon, alors c'est pas appliqué tel quel, parce que d'une famille à l'autre, ça dépend de la personnalité des grands-parents aussi, et puis voilà, et du lien. Mais quelquefois, il y a, dans certaines familles, les grands-parents ont un rôle très très important à ce niveau-là, où ils peuvent, où les, comme il n'y a pas un rapport direct d'autorité, les enfants peuvent poser toutes leurs questions, voilà. Ou confier leurs bêtises aussi, parce qu'après, voilà. Et toujours dans ces numéros de 14 à 18, 14-18, on peut retenir, le numéro 17, il parle dans le sens inverse, de s'occuper de ses parents aussi. Honore ton père et ta mère. Alors ça, c'est... Vous le retrouvez, c'est le quatrième commandement. Donc, on peut avoir comme une explicitation de tous ces numéros aussi dans les catéchèses qu'a pu faire le pape François. Alors là, il en a parlé dans la catéchèse du 11 février 2015. Le quatrième commandement demande aux enfants, et nous le sommes tous, d'honorer le père et la mère. Ce commandement vient juste après ce qui concerne Dieu lui-même. Il contient en effet quelque chose de sacré, quelque chose de divin, quelque chose qui se trouve à la racine de tout autre genre de respect entre les hommes. Ce respect des parents. Et dans le numéro 18, le pape nous dit que l'Évangile nous rappelle également que les enfants ne sont pas une propriété de la famille, mais qu'ils ont devant eux leur propre chemin de vie. Alors il cite Jésus, là, qui s'est émancipé de ses parents. Alors je fais un flash publicitaire, je peux? Les 11, 12 novembre, oui, de toute façon, vous n'avez pas le droit de dire non. Donc. Ça tombe assez bien. On va essayer de. On va commencer une autre. Quelque chose qu'on n'avait pas encore fait ici, c'est une journée, c'est pratiquement une journée, c'est du vendredi au samedi. Pour le titre, c'est Que faire de ma vie pour des lycéens. Pour des lycéens, 16-18 ans. Donc, on fait, bon, il y en a qui connaissent avec Victoire Dégé et d'Hermenonville, et puis avec un Xavier Caille qui avait vécu à Compiègne il y a un certain nombre d'années et qui habite à Lyon, mais qui va venir pour une occasion. Donc, l'idée, c'était de dire, d'aider les jeunes à réfléchir un petit peu sur ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Alors, ce n'est pas d'abord quelque chose d'ordre vocationnel. Bon, s'il y a des vocations, tant mieux, bien sûr. Mais d'abord, par rapport à notre mission, par rapport à leur futur métier, etc., hein, c'est souvent le moment où il faut réfléchir à l'orientation après le bac. Mais que ce ne soit pas simplement les résultats scolaires qui déterminent l'orientation, mais vraiment à la fois leurs désirs. Et leurs possibilités, bien sûr, aussi, leur personnalité, mais voilà, cette orientation. Alors, donc, on va essayer de faire quelque chose comme ça le 11-12 novembre pour les jeunes, pour aller dans le sens de ce que dit le pape François. Les enfants ont devant eux leur propre chemin de vie. Alors, bon, qu'ils découvrent quel est leur chemin de vie. Et, bon. Après, dans les numéros 19 à 22, le pape parle de la famille comme un chemin de souffrance et de sang. Parce que, et là on le trouve dans la Bible, hein, toujours il lit la Bible, mais dans la Bible on voit beaucoup de choses difficiles dans le lien conjugal, dans les rapports fraternels, hein, Caïn qui tue son frère. Beaucoup. Oh oui, alors je vais. Merci. Donc, dans les numéros 19 à 22, Le pape parle de toutes les choses difficiles dans la vie de famille, soit qu'on en soit responsable, soit qu'on n'en soit pas responsable. Un deuil, on n'en est pas responsable, enfin, sauf si on a assassiné, mais sinon, non. Et aussi, on voit que Jésus ne reste pas insensible à tout ça. Que Dieu est présent aussi à ces choses difficiles de la vie familiale. Alors ça reste toujours un défi, hein, ces événements douloureux dans la vie familiale, mais Dieu ne veut pas le mal, ça c'est évident, mais après il nous aide justement dans ces situations difficiles à voir le chemin que le Seigneur nous invite à parcourir. C'est pas ce qu'on avait prévu au point de départ, hein, entre le projet initial qu'on peut faire dans notre vie et puis ce qui arrive au bout du compte, il y a bien des écueils qui se présentent entre deux. Mais voilà. Donc la famille aussi. Et de ce point de vue-là, la Bible n'enjolive pas la vie familiale. Hein, je ne vais pas citer tous les passages, vous pourrez lire ces numéros du. Après, dans les numéros 23 à 26, le pape parle davantage du travail, le labeur de tes mains. Parce que le travail a une importance assez grande et des répercussions assez grandes pour la vie familiale. Il a donné des catéchèses aussi à ce sujet-là, par exemple, le 19 août 2015. Alors, de diverses manières, le travail est important, déjà ça permet de vivre concrètement, quand on n'a pas de travail c'est un peu compliqué, mais aussi ça donne une dignité le travail. La famille éduque au travail par l'exemple des parents. Dans l'évangile, la Sainte Famille de Nazareth apparaît comme une famille de travailleurs et Jésus lui-même est appelé fils du charpentier. Et Saint Paul, ah oui, alors après, ah oui, voilà. Non, c'est pas ça. Ah oui. Saint Paul ne manquera pas d'avertir les chrétiens. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Annotation du pape, c'est dans une de ses catéchèses. C'est une bonne recette pour maigrir cela. On ne travaille pas, on ne mange pas. Bon. L'apôtre se réfère de façon explicite au faux spiritualisme de certains qui, de fait, vivent au crochet de leurs frères et sœurs, ne travaillant pas du tout. Hein, c'est quand il écrit aux Thessaloniciens, saint Paul est assez virulent là-dessus. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Bon, après, c'est pas forcément un choix. Mais. Travailler, je le répète, sous d'innombrables formes, est le propre de la personne humaine. Cela exprime sa dignité d'être créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi on dit que le travail est sacré. Ah, une petite question. Le travail, c'est avant ou après le péché originel? Pas. Non, le travail est avant le péché. C'est la pénibilité qui est après. La douleur est venue après, mais le travail est venu avant. Et c'est une question toute bête, mais qui peut influer sur notre conception du travail. Si on conçoit le travail que seulement quelque chose qui nous est venu après le péché originel, on ne le conçoit pas de la même manière que si on voit le travail comme quelque chose qui est avant le péché. Au contraire, c'était participer à la dignité de Dieu, enfin quelque part, c'est vraiment une dignité de travailler. Alors, le pape prend d'une manière, il cite la Genèse, et il, voilà. Je relis ce. Alors, ça, c'est dans la catéchèse qu'il a donnée le 19 août 2015. Et dans la Genèse, c'est au chapitre 2, des versets 4 à 6. Attendez que je vérifie. Vous allez voir. Oui, ça doit être ça, des versets 4 à 6. Au temps où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, parce que le péché c'est au chapitre 3, hein. Mais au chapitre 2 il n'y a pas encore le péché. Au temps où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs n'avait encore poussé, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Il n'y avait encore rien parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Toutefois, un flot montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Alors voilà ce que dit le pape François. Ce n'est pas du romantisme, mais c'est la révélation de Dieu. Et nous avons la responsabilité de la comprendre et de l'assimiler entièrement. La beauté de la terre et la dignité du travail sont faites pour être unies. Elles vont de pair, la terre devient belle lorsqu'elle est travaillée par l'homme. Quand le travail se détache de l'alliance de Dieu avec l'homme et la femme, lorsqu'il se sépare de leur qualité spirituelle, lorsqu'il est otage de la logique du seul profit et qu'il méprise les liens d'affection de la vie, l'avilissement de l'âme contamine tout, même l'air, l'eau, l'herbe, la nourriture. La vie civile se corrompt et l'habitat se détériore. Là, il faisait référence aussi à son encyclique sur l'écologie. Mais voilà. Donc le travail qui est. Voilà, qui est avant le péché et qui est vraiment une participation à l'autorité de Dieu sur la création. C'est vraiment Dieu qui nous fait gérants et qui nous établit gérants. Donc c'est alors après la pénibilité, c'est une autre affaire. Et la dernier paragraphe dans ce chapitre 1, c'est la tendresse de l'accolade. Alors à plusieurs reprises, le pape a parlé de la tendresse, donc là il en parle. Au numéro 28, dans la perspective de l'amour, centrale dans l'expérience chrétienne du mariage et de la famille, une autre vertu se démarque également. Il a déjà parlé de l'amour, du don de soi, de la miséricorde, du pardon, mais là, l'autre vertu qui se démarque, c'est quelque peu ignorée en ces temps de relations frénétiques et superficielles, c'est la tendresse. Et il avait fait une homélie pour la messe de Noël 2014 où il parlait beaucoup de la tendresse. Il avait aussi fait une catéchèse, alors, comme je suis, pour bien me faire bien voir par les dames qui sont présentes. Donc ça, c'était une catéchèse qu'il avait faite le 7 janvier 2015. Les mères sont l'antidote le plus fort à la diffusion de l'individualisme égoïste. Individu signifie qu'il ne peut pas se partager. Les mères, en revanche, se partagent à partir du moment où elles portent un enfant pour le mettre au monde et l'élever. Une société sans mère serait une société inhumaine, parce que les mères savent témoigner toujours, même dans les pires moments, de la tendresse, du dévouement, de la force morale. Sans les mères, non seulement il n'y aurait pas de nouveaux fidèles, mais la foi perdrait une bonne partie de sa chaleur simple et profonde. Très chère maman, merci, merci pour ce que vous êtes dans la famille et pour ce que vous donnez à l'Église et au monde. Et à toi, bien-aimée Église, merci, merci d'être mère. Et à toi, Marie, Mère de Dieu, merci de nous faire voir Jésus. Voilà. Voilà. Ça, vous pouvez le retrouver si c'est le 7 janvier 2015 qu'il a dit ça. Une catéchèse. Voilà. Je vais m'arrêter là. Donc, on n'a fait que le premier chapitre, mais prochaine fois, on avancera un petit peu plus vite. On fera au moins le deuxième et troisième chapitre la prochaine fois. Voilà. Oh, est-ce que vous avez des questions maintenant que vous avez le droit de parler? Alors, la question, en résumé, c'est y a-t-il des écrits qui nous parlent de la dormition de Marie, et des écrits qui ne seraient pas bibliques, mais qui nous parleraient de la dormition de Marie ou... Alors, c'est vrai qu'il y a les écrits canoniques, donc ce qui ont été reconnus par la tradition aussi, parce que c'est aussi. On a parlé de l'écriture et de la tradition, mais c'est aussi la tradition qui reconnaît tel livre comme authentique et tel livre comme non authentique. Hein, donc, il y a certains écrits apocryphes. Alors, je ne sais pas s'ils parlent vraiment de la Dormition de Marie. Enfin, il y en a un certain nombre. Il y en a qui peuvent en parler. Alors, après, dans ces écrits, il peut y avoir des choses qu'on peut retenir. Par exemple, la fête de la présentation de Marie est assez liée à des écrits apocryphes. Mais ça ne se limite pas, c'est la source principale, c'est quand même pas ces écrits apocryphes, il faut que ça soit en consonance avec ce qu'on peut comprendre de Marie, de la manière dont Dieu a conduit les choses. Mais je ne saurais pas répondre très très précisément à la question. Alors après, les pères de l'Église. C'est vrai que, alors là, c'est plus une réflexion à partir, alors depuis quand même très longtemps, les pères de l'Église ne pouvaient pas concevoir que Marie soit corrompue, son corps soit corrompu, puisqu'il avait porté Jésus, et voilà. Il dit, mais honore ton père et ta mère, je ne conçois pas que Jésus n'ait pas observé ce commandement à l'égard de Marie, qu'il l'a porté quelque part en faisant bref. Oui, alors, il n'est pas interdit de... Oui, en tout cas, c'est vrai que pour prendre un autre dogme qui concerne Marie, pour l'Immaculée Conception, c'est donc au 19e siècle, en 1854. Qu'elle était 50, oui, 54. Mais c'est en 58, elle, oui. Donc il y a des endroits, déjà, ils pouvaient célébrer l'Immaculée Conception, mais il n'y avait pas de. L'Église n'était pas vraiment prononcée de façon infaillible à ce sujet-là. Mais il y avait déjà un office qui pouvait être célébré. Alors on peut penser que pour la Dormition, l'Église n'est pas contre, c'est pas contre la foi, mais c'est pas non plus. On est libre d'adhérer ou de pas adhérer à ce. Non, non, non. Oui, alors ça peut venir. Oui, alors après, c'est vrai. La dormition, c'est qu'elle s'est endormie, mais qu'elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Mais chez eux, il n'y a pas de dogme. L'infaillibilité du pape, justement, c'était. Enfin, il y a des dogmes, mais pas. Mais là-dessus. Oui. Non, il y a une unité quand même, une unité beaucoup plus grande chez les orthodoxes que chez les protestants. Oui. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'à Jérusalem, il y a une église de la Dormition, mais en même temps, à Éphèse, certains pensent que Marie est plutôt partie vers le ciel quand elle était à Éphèse. Donc, c'est des traditions, mais l'église n'a pas tranché. Est-ce que. Voilà. Oui, l'église, en tout cas, n'a pas tranché. Alors, on peut penser dans un sens ou un autre sans dommage. Alors, peut-être Jean-Paul II, en tout cas, pour l'Assomption, après lui est penché plutôt sur le fait que ce n'était pas la Dormition, mais que Marie était vraiment morte. Et lui le rattachait un petit peu, le rattachait à la proximité de Marie avec Jésus, avec son fils, en disant que. Voilà, son itinéraire a été semblable à celui de Jésus, qui est mort et ressuscité, et Marie, à son tour, est morte et ressuscitée. Et l'Assomption, c'est la résurrection, en quelque sorte. C'est à la fois un mélange de la résurrection et de la. Nous, on le distingue dans les fêtes, mais il n'y a pas. Quelque part. Le temps n'est pas le même une fois que, à partir de la résurrection, on n'est plus dans le temps terrestre. Donc, mais ça vous éclaire peut-être pas plus. Oui, c'est ça. Non, c'est pas du tout une aberration. À partir de l'Assomption, on dit que Marie est au ciel, corps et âme. Donc son corps est ressuscité à l'Assomption. Donc c'est pas du tout une aberration. Pas du tout une aberration. Parce que nous, l'Ascension, on a cette image de Jésus qui monte au ciel. Voilà, mais c'est un peu imagé quelque part. C'est un peu imagé pour un mystère qui est un peu différent. Mais bon. Ça reste un mystère. Oui, ça reste un mystère. Mais en même temps, oui, ça correspond à la résurrection de Marie. Ça veut dire. Ben non. Ben oui, après un certain moment. Toujours dans la démarche que j'ai essayé de dire, c'est notre foi, c'est une réponse à Dieu qui se révèle. Donc c'est à la différence de la philosophie où on peut se creuser la tête. Nous, c'est pas dans le domaine de la philosophie, notre foi chrétienne. C'est une réponse à Dieu qui se révèle. Je ne vais pas citer, mais il y a un célèbre texte d'un texte du Concile Vatican II, Dei Verbum, la parole de Dieu, où voilà, on nous montre bien, c'est d'abord Dieu qui a l'initiative de se révéler. Après, nous, on accepte ou pas, mais ce n'est pas nous qui créons notre foi. C'est notre foi, c'est une réponse. Est-ce que.
C'est un peu pareil pour les sacrements.
Ben oui,
Il y a
si.
bien dans un seul dans le sacrement de l'Eucharistie.
Sinon, on en reste au niveau visible et puis. dans quel sens? Alors, là, il y a deux composantes principales dans la foi, on pourrait dire. Il y a la composante plus intellectuelle et du contenu de notre foi. Alors, ce contenu, il évolue pas spécialement. Je dis le même credo quand je suis petit ou quand je serai. Mais après, il y a aussi la composante de la confiance à l'égard de Dieu. Alors ça, bien sûr, ça évolue. Hein, parce qu'au long de notre vie, on est appelé à progresser dans cette confiance à l'égard de Dieu. Et même Marie, le concile dit que Marie a évolué dans sa foi, dans le sens où petit à petit, il y a des choses qu'elle a mieux comprises. Voilà. Mais non pas qu'il y ait des changements, mais qu'elle entre.
Dieu, on ne l'interprète pas de la même façon dans les différentes étapes de notre vie.
Oui, et puis on comprend un peu mieux.